France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
L'initiative est inédite, elle émane des grands débats après les Gilets jaunes, souvenez-vous, et puis elle suit son cours, quatrième session ce week-end, de la Convention citoyenne pour le climat. Une quatrième session à laquelle s'est invité Emmanuel Macron, et bien sûr on y reviendra. 150 citoyens donc venus de tous horizons, répartis en plusieurs groupes de travail, avec pour objectif de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et pour ça, il faut des idées, 150 citoyens qui cherchent des solutions durables dans un esprit de justice sociale. Ils sont donc à mi-parcours. Alors, qu'est-ce qu'il se dit dans cette convention? Comment ça se passe, les débats? Comment les idées sont-elles triées? Le sont-elles? Comment les synthèses seront élaborées? Qu'est-ce qui aboutira et comment un projet de loi, un référendum, sur quelles questions et comment ces questions-là seront-elles choisies? Ce soir, on va essayer d'aller faire un tour aux cuisines, aller voir justement comment ça se passe à l'intérieur. Vous vous interrogez sur le fonctionnement de cette convention. C'est le moment de parler avec ceux qui la composent, ceux qui discutent, ceux qui entendent les idées des uns et des autres. Peut-être que vous avez aussi envoyé des contributions, peut-être que vous êtes enthousiaste ou sceptique au regard de cette expérience. Eh bien, c'est le moment de le dire. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, on est parti. Et la première, c'est vous, Marie. Bonsoir, Marie.
Bonsoir, France Inter.
Soyez la bienvenue, Marie.
Bonsoir.
Allez-y.
Alors oui, la question que je me posais par rapport à cette convention, quel est le but? Et je me demande si cette convention va pas nous faire perdre du temps, plus qu'elle va nous en faire gagner. Et puis aussi, dans la mesure où il y a eu déjà des conférences, climat, etc., on parlait d'éviter donc le réchauffement climatique à plus de 2 degrés, nous sommes apparemment largement déjà au-dessus. Donc je me pose la question, est-ce que toutes ces réflexions ne vont pas nous faire perdre du temps? Et puis il y a sans doute des experts qui réfléchissent depuis très longtemps. Alors je pense qu'ils ont déjà plein d'idées et qu'ils sont largement plus de 150 dans le monde.
Merci pour votre question, Marie. Ça nous fait une jolie entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h, échanger ensemble. Muriel Pivard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'Île-de-France, vous travaillez entre la France et l'Allemagne. Et bonsoir, William Ocamp.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste et vous travaillez à Nantes. Tous les deux, donc, vous faites partie de cette convention citoyenne. Vous êtes les citoyens lambda. On a décidé qu'on s'appellerait pas citoyens, citoyennes au cours de cette émission. On est quand même à deux doigts. Et bonsoir à vous, Célia Kiré.
Bonsoir.
Spécialiste environnement de France Inter. Alain et à l'autre, elle est légitime, la question de Muriel. Qu'est-ce que vous avez de plus que tout ce qui a déjà été dit et déjà été fait et qui a tellement de mal à aboutir à des résultats? Pourquoi est-ce qu'une convention citoyenne comme la vôtre arriverait à faire avancer plus vite? Parce que l'idée, c'est ça.
Donc on est 150 citoyens, ouais. Et donc 150 points de vue représentatifs des citoyens au final. Et ça permet aussi de donner une voix à des citoyens de vous, moi, enfin c'est-à-dire qui ont une préoccupation grandissante sur l'avenir du climat. Et ça leur permet aussi de recevoir un peu une formation continue sur les éléments sur le climat, des choses qu'on n'a pas forcément dans la vie courante, dans les informations.
Mais vous avez le sentiment, est-ce que vous avez été, est-ce qu'il y a eu des mini formation au début, par exemple, parce que, pardon, là je lis par exemple les 169 contributions citoyennes organisées par sous-thématique. Pour l'instant, il y a la totale là-dedans. Moi, je veux bien qu'on parle transport routier, qu'on parle fret, qu'on parle kérosène, qu'on parle avion, etc. Mais est-ce qu'à un moment, vous savez tous exactement de quoi vous parlez, en fait, sincèrement, William ou Muriel? Allez-y, je vous en prie.
Alors, on a appris beaucoup de choses.
Mm-hmm.
Nous avons entendu beaucoup d'experts, très compétents.
C'était le sens de ma question. Vous êtes formés au fur et à mesure, en fait, à ces questions.
Formés, oui, mais il y aura pas de limite, en fait, en matière de formation. Je crois qu'on apprendra encore et encore, et sur le long terme. C'est un sujet tellement vaste et qui nous concerne tous. C'est un sujet qui n'a pas de frontières. Et nos enfants auront, quand ils auront la possibilité de prendre la planète en main, je pense que eux-mêmes apprendront encore. Voilà.
Célia.
Je pense que pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, ouais, c'est vraiment une question de méthode. C'est évident que les propositions qui vont sortir de cette convention auront déjà, au moins en partie, été soumises par des experts qui réfléchissent à ces questions depuis 20-30 ans. Les citoyens, même s'ils ont des bonnes idées, pourront pas réinventer l'eau chaude, comme on dit, en si peu de temps. En revanche, ce qui est important, c'est que ces propositions viennent justement de citoyens tirés au sort et représentatifs. On est vraiment là, simplement dans une question de méthode.
On vous a beaucoup posé poser la question les uns les autres, on retournera au standard dans un instant, notamment au moment où Emmanuel Macron est arrivé, il a beaucoup été interrogé aussi là-dessus. D'accord, nous on réfléchit, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Est-ce que vous avez été rassuré par ce qu'il vous a dit ou pas, William Auquin d'abord ou Muriel Pivard, allez-y.
Alors, on a été rassuré. Emmanuel Macron a été très très clair dans ses réponses quant à la transmission sans filtre de nos propositions.
Mais transmis, elles le sont déjà. Il suffit d'aller sur le site internet, donc la transmission, elle existe. On a tout apporté.
Oui, mais elles ne sont pas terminées, ces propositions.
Non, on est d'accord, hein, mais après.
Après, alors, au sortir de cette convention, donc début avril, sauf changement, sauf impératif, mm-hmm. Puisque nous avons une session d'annulée pour mm-hmm. Des raisons de problèmes de transport, mm-hmm. Donc, lorsque nous remettrons nos propositions au président de la République, il s'est engagé à les transmettre sans filtre auprès des parlementaires, sauf s'il y a une voie de référendum ou une application directe dont il sera décideur. De toute façon, il faut qu'on fasse vraiment le distinguo entre une transmission sans filtre et puis après ce que vont devenir réellement ces propositions. Les parlementaires sont in fine ceux qui décideront et qui travailleront dessus à leur tour.
Donc vous donnez combien de propositions sans filtre? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous savez, vous allez les faire réfléchir sur un package de combien? Est-ce qu'on sait ça? Qui vont ramener à quoi en fait?
La forme finale n'a pas été décidée pour l'instant. Hein. On est cinq sous-groupes, cinq thématiques, et de là-dedans, par exemple, à la session dernière, il y avait une dizaine de mesures par sous-groupe. Donc ça fait énormément de choses. Il y a aussi un enjeu de communication, au final, de toutes ces mesures. Si par un paquet énorme, vous transmettez énormément d'informations et qu'en fait vous perdez les gens sur le sujet, c'est pas l'idée. Il y aura il y a une synthèse qui est faite au fur et à mesure qu'on avance. Il y avait énormément de propositions, vous l'avez dit tout à l'heure, les citoyens en ligne nous proposent énormément de choses, on les écoute beaucoup puisqu'on est là aussi pour les représenter. On a été tiré au sort, certes on n'a pas été élu, mais on est là quand même en tant que citoyen, sans rien à perdre et dans une optique de vouloir bien faire les choses.
Bah justement, dans ce que vous venez de dire, il y a une chose qui intéresse Églantine qui nous appelle. Bonsoir Églantine.
Oui, bonsoir. J'avais une question en deux parties à poser à vos invités. D'une part, je voulais savoir comment vous vous situez justement d'un point de vue légitimité entre les autres citoyens comme moi, qui ne vous ont pas élus et qui, eux, n'ont pas été tirés au sort, et le gouvernement qui est à l'origine de la création de cette convention citoyenne. Vous parlez de responsabilité, de représentativité. Comment ça se passe? Et puis, d'autre part, vous en avez vous l'avez évoqué tout à l'heure, le président de la République s'est engagé à ce que vos propositions soient soumises sans filtre. Quelle garantie vous avez qu'on ne va pas chercher du côté gouvernement à vous influencer à faire des propositions qui arrangent ce gouvernement, justement?
Merci pour cette question, Églantine. Comment on peut rassurer Églantine, William Auquin? Deux choses. D'abord, votre légitimité. Alors oui, le tirage au sort. À un moment, il faut bien qu'il y ait arrêté un nombre. On va pas faire discuter effectivement 66 millions de personnes. Mais néanmoins, votre légitimité, comment est-ce que vous pouvez, pour répondre à Églantine, lui dire voilà pourquoi nous, on se sent légitime par rapport au reste de la population? Et comment êtes-vous sûr, effectivement, que vous n'êtes pas, d'une certaine façon, aiguillé, en fait?
Donc, nous avons été appelés au tirage au sort, mais aussi nous avons posé un petit peu les bases de notre profil. Et sur ce profil-là, il y avait 150 profils types, dans lesquels, en fait, les personnes qui ont été retenues faisaient partie pour représenter un panel très, très divers de portraits de la France. Et donc la légitimité, on tient quand même aussi à signaler que on n'a aucun pouvoir décisionnaire.
Vous soumettez.
On soumet.
Bah oui.
C'est-à-dire que des citoyens qui ont appris des informations sur le climat, qui ont discuté, débattu entre eux, vont être amenés à proposer au système politique des mesures qui seront à accepter ou pas. C'est-à-dire qu'après, le débat qu'on a, c'est un débat qu'on peut avoir chez soi, tout le monde a chez soi au final.
Muriel Pivard, là-dessus, sur votre légitimité.
Moi, je pense, au départ, on s'est posé la même question. Hein.
Mais oui, et parce que, pardon, hein, je rebondis sur ce que disait William à l'instant, mais vous pourriez, effectivement, on a tous cette discussion, y compris autour de la table. Sauf que pour la table du dîner ou n'importe où ailleurs. Sauf que pour que vous, ça marche, hein, il faut qu'on arrive à aller vraiment au-delà de la table du dîner. Il ne faut pas que ce soit du café d'e-commerce. Jusqu'à quel point vous êtes sûr qu'au fond, ces discussions qui sont sûrement extrêmement enrichissantes ne seront pas que du café du commerce et pourront monter sur la marche supérieure.
Alors, je vais juste me permettre de revenir sur la légitimité. On a eu cette question nous-mêmes dès le premier jour, dès le 4 octobre. Quand le Premier ministre Édouard Philippe est venu nous voir, la question lui a été posée et la réponse a été très claire. Mais il est vrai que ça s'est posé. Et peut-être que pour répondre à Eglantine, la population française peut penser que nous ferons le lien entre la population qui est à l'écoute ou pas de cette convention, parce que tout le monde ne la connaît pas. Entre le lien entre la population et, sans prétention aucune, vers le gouvernement et les parlementaires par la suite.
Pardon, je pensais que vous aviez pas fini, mais allez-y, je vous en prie.
C'est fini.
D'abord,
c'est
bon, très bien.
Pour l'instant.
Florence, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Florence. On vous écoute.
Eh ben, merci. D'abord, merci pour le travail que vous faites dans la convention. Et puis, je voulais vous demander si il y avait des gens dans la convention qui étaient le contraire d'écologistes avant et qui, grâce au travail de la convention, avaient changé d'état d'esprit. Et était maintenant plutôt moteur dans le changement.
Est-ce que ça vous a changé les uns les autres? Il y avait des climato-sceptiques carrément, William Aucamp, ou pas? Vous en avez croisé?
Personnellement, j'ai trouvé que tout le monde avait une sensibilité un petit peu à des degrés différents, ou un éveil à l'écologie qui était un peu différent. Donc je pense de toute façon, à partir du moment où on vous a appelé, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure, vous avez quand même un petit mot à dire sur le sujet. Les climato-sceptiques, on n'a pas de discussion climato-sceptique.
Et vous avez le sentiment d'avoir bougé dans vos convictions, dans vos idées en discutant? Par exemple, William, il y a une chose sur laquelle vous aviez...
J'ai déjà un mode de vie un peu basé sur le vélo, le fait de ne pas avoir de voiture, d'essayer de manger un petit peu sainement, mais le fait qu'on ait par exemple découvert que la moyenne des Français était de rejet, enfin l'empreinte écologique d'un Français était de 11 tonnes par an, et qu'on avait en 2050 à la réduire à 2 tonnes, ça nous a fait un choc, ça nous a fait un choc au plus profond de nous. Il y a des choses, en fait, du fait qu'on ait reçu ces informations, on est passé nous-mêmes à essayer de chercher qu'est-ce qui clochait dans nos propres vies. Et moi, par exemple, j'ai découvert que du fait que je suis ancien expatrié, je prenais trop souvent l'avion et ça prenait 3 tonnes de mon bilan carbone. Donc maintenant, c'est quelque chose que je souhaite réduire. Changer mon alimentation, il y a plein de choses. Du fait que j'ai reçu ces informations et que je souhaite un petit peu faire des choses.
Vous les aviez pas, ces infos avant? Vous saviez pas ça, sincèrement?
Ben, on les a un peu en continu, mais c'est-à-dire qu'on n'y prête pas attention à partir du moment où il faut se sentir concerné. Et l'éveil à l'écologie, c'est...
Il y a vraiment une appropriation de l'enjeu écologique qu'on peut constater en tant que journaliste d'un week-end à l'autre. Les citoyens s'en rendent compte.
Patrice nous demande ceci sur franceinter.fr. Pour s'assurer d'une véritable réflexion indépendante de tout groupe de pression, qui fournit et présente les documents, les bases de réflexion sur les problématiques climatiques? Et y a-t-il des sujets, ajoute Patrice, que les protagonistes ressentent comme délicats, voire tabous? Muriel Pivard, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à aborder que d'autres? Est-ce qu'il y a des sujets?
Ah, bien sûr.
Allez-y.
On ne va pas se mentir. Allez-y. Sinon, ça serait à la limite, peut-être qu'on s'ennuierait.
Allez-y, ok. Je vous écoute.
Nous sommes 150. Nous sommes un petit panel de la représentative de la population française. Donc, on représente entre guillemets toutes les couleurs de cette population. Et bien sûr qu'il y a des sujets qui commencent à resurgir et qui peut-être vont amener, et je l'espère d'ailleurs, vers des débats.
Comme
la taxe carbone, tout simplement. Ça s'avère, personnellement, je pense que on ne peut pas y échapper à ce débat. Et c'est souhaitable. Si on devait passer à côté de ça, ce serait bien dommage.
Vous, par exemple, Muriel, vous dites quoi? Oui ou non? Il faut une taxe... Pardon, je tape mon propre micro. Vous pensez qu'il faut revenir à cette taxe,
non,
à cette taxe
du
carbone?
Tout. Du tout. Moi, je suis contre. Je suis contre, voilà.
Et vous, William, de votre côté?
Moi, je pense qu'il ne faut pas faire des dispositifs qui enferment les gens dans les pièges. S'il y a des choses à taxer d'un point de vue des ressources énergie fossile, je pense qu'il y a des choses telles que l'avion pourra avoir sa part à payer dans le système. Et puis également dans les investissements qu'on peut faire dans les énergies fossiles et non renouvelables.
Allez-y, Muriel.
Si je pouvais préciser que notre lettre de mission nous demande de travailler sur la réduction des gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Et si je garde cette lettre de mission en tête, les deux mots justice sociale, moi, me semblent indispensables à ne pas mettre de côté dans nos travaux.
Et je comprends aussi que l'actualité s'invite à l'intérieur de ces débats en fonction de l'atmosphère à l'extérieur, etc. Ça me paraît normal, mais ça me paraît aussi normal et sain même que vous ne soyez pas d'accord. Mais du coup, c'est le bon exemple. Qu'est-ce qui se passe après ? Sur la taxe carbone. Est-ce que vous pouvez quitter la Convention citoyenne en n'ayant pas tranché entre vous ces 150 sur un sujet aussi important que celui-là ? Et s'il faut trancher, qu'est-ce que vous ferez ? Vous voterez vous-même à l'intérieur de votre convention ? Qu'est-ce qui se passera sur un sujet comme celui-ci ?
Alors, ce qui est bien ce week-end, sur cette session, le comité de gouvernance a mis à notre disposition deux experts. L'un était plutôt pour, l'autre plutôt beaucoup moins.
D'accord.
Ils avaient des points communs et des divergences. Donc, c'était assez objectif, c'était très intéressant. Et pour ça, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de les écouter. Mais au-delà de ça, nous avons écouté, posé quelques questions, mais le débat ne s'est pas encore posé. Mmh. Et je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on en discute vraiment avec le président de la République lorsqu'il a proposé de revenir nous voir.
Vous pensez que c'est ça qu'il faut faire ? Il faut refaire une espèce de grand débat uniquement autour de la taxe carbone lorsqu'il reviendra vous voir ?
Pas uniquement autour de la taxe carbone, mais des financements peut-être. Mm-hmm. Non pas dans leur globalité parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais de certains modes de financement, dont la taxe carbone, et vraiment aller creuser.
J'entends de l'autre côté du poste des gens qui nous écoutent qui doivent se dire, attendez, si c'est avec le président de la République que ce débat aura lieu, on le voit, retroussant ses manches et vous parlant, et vous perdrez la main, William Ockhan, là-dessus.
Ce débat, on l'aura vraiment entre nous. Mais je répète et je le dis, la justice sociale fait quand même partie de l'un de nos fondamentaux. On vérifie toujours qu'il n'y ait personne mis de côté, et si c'est le cas, alors on doit chercher des solutions. Et vis-à-vis de cette taxe carbone, on va essayer de trouver des solutions. On proposera... On mettra personne, quiconque, en péril ou dans la précarité, c'est pas l'idée. Et du coup, la taxe carbone telle qu'elle avait été proposée met les gens dans cette situation. Donc, on sait que le mode de vie et les comportements doivent changer, mais en somme, on doit aussi sortir un peu d'une logique de surconsommation. Donc, les ressources fossiles en font partie. Mmh. Et quand on a accès à une ressource comme ça et qu'on a les moyens de l'obtenir facilement et en abondance, il faut savoir aussi des fois pas prendre plus qu'il n'en faut. Et dans le futur, je pense qu'il y aura du mal à être, il y aura pas de mal à être plus frugal. Donc, vis-à-vis de ça, voilà.
Là, on touche vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire que, en fait, les citoyens ne savent pas de combien d'euros ils disposent pour ces mesures. Mm-hmm. Donc, il y aura peut-être une taxe carbone à la sortie de la Convention citoyenne, avec une compensation sociale pour les ménages les plus modestes. Il y aura peut-être aussi une obligation de rénover son logement. Donc, qui dit obligation dit coercition, ça ne s'appelait pas à Emmanuel Macron. Mais il faudra des aides pour les ménages les plus pauvres. Or, les citoyens ne savent pas de combien ils disposent. Ça, c'est le gros problème.
Ce que je trouve fascinant quand je lis les fameuses 169 contributions, j'ai bien compris que tout ça allait être resserré. Hein. Vous n'allez pas arriver avec 169 propositions. Mais non seulement il y en a effectivement dans tous les sens, mais on sent l'opposition que vous pouvez avoir les uns ou les autres, et même les tendances, y compris politiques, que vous pouvez avoir les uns ou les autres quand on lit. Et en lisant ça, je me dis qu'il y a plein de choses qui sont fascinantes, qui vont d'un spectre A à un spectre Z sur l'échelle de l'écologie. Comment vous arriverez à un moment faire la synthèse de ça sans qu'il y ait d'énormes frustrations parmi vous? Est-ce que je peux en lire juste deux ou trois? Encore une fois, je sais que tout ça sera mis en synthèse, mais nous avons quel rôle faire jouer aux banques, revoir nos investissements, planifier la transition, par exemple, augmenter les taux d'intérêt des prêts à la consommation, proposer des prêts à taux zéro sur les longs termes pour toutes les rénovations thermiques, par exemple. Je vois dans la mise en cohérence et le droit des réglementations avec objectifs climatiques. Je vois interdire les portes des magasins en permanence quand la climatisation ou le chauffage sont là, ce qui est une vraie mesure de bon sens. Éteindre obligatoirement la lumière quand un lieu est fermé. Mais je vois aussi produire soi-même sa nourriture, boycotter les produits non locaux ou bio, offrir un kit déchets lors de la majorité. Enfin, on a l'impression que le spectre est incroyablement large. C'est très intéressant à lire, mais encore une fois, avril, c'est demain. Comment vous resserrez tout ça sans faire d'énormes frustrations ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des propositions qui ont besoin de passer qui auront...
Oh, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, on est entre nous.
Pour lesquelles il faudra légiférer, via la voix des parlementaires ou...
Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui vous dira, par exemple, pardon hein,
Et puis d'autres, ce sont de simples préconisations.
Mais alors, je vois, par exemple, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple ? Augmenter les taux d'intérêt liés à la consommation. Vous allez arriver avec cette proposition-là. En face, j'entends ce qu'on va vous dire. Ah bah attendez, c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Madame Sintès, la liste que vous venez d'évoquer sont les propositions des citoyens qui sont hors convention citoyenne.
Et pas seulement, en fait. Il y a une espèce de mix. Mais qu'importe, en fait. Ce spectre-là est extrêmement large. Donc, encore une fois.
Il y a énormément de points de débat.
Comment vous resserrez?
Eh ben, le fait, en fait, l'organisation de la convention citoyenne, je crois qu'on en a un petit peu parlé dans la question, est extrêmement bien faite. On arrive à toujours, bon, on a été répartis au tirage au sort sur nos différents groupes thématiques, et il y a toujours une synthèse qui a été faite. Le propos va devenir super clair sur des sujets, sur des mesures. C'est aussi ce qui a été attendu du président. Mmh. Il nous l'a rappelé qu'il faut quelque chose de solide pour pouvoir
clair
passer
et précis,
clair et précis pour pouvoir passer tel quel. La façon dont les mesures en fait évoluent, il y a des choses qui partent un petit peu de côté. On sait qu'il y a des choses qui pourront pas rester jusqu'au bout. Mais l'essence même, je pense, à la fin de la convention, va trouver son chemin.
David, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir David, allez-y.
Alors, je vous appelle pour poser une question, deux questions sur les questions d'éducation, d'éducation à l'environnement. En fait, moi, je suis un professionnel qui forme des éducateurs à l'environnement professionnels. Et ils trouvent tous du travail, avec plein d'autres personnes en France, hein, ils trouvent tous du travail, mais ils sont très très peu nombreux à être sur le marché du travail, notamment parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'ils ne sont pas trop connus au niveau de leur capacité professionnelle. Il y a des choses qui se font à l'éducation nationale, etc., avec des enseignants, mais ils sont déjà pris par bien d'autres choses. Et donc mes deux questions, c'est est-ce que vous connaissez, est-ce que vous discutez des éducateurs environnement, est-ce que vous les connaissez comme relais potentiels pour éviter que ça soit anxiogène, les gestes, les comportements, etc., qui travaillent déjà beaucoup sur le transport, etc., etc., avec les citoyens, les enfants, voilà. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous en avez parlé? Et est-ce que vous avez évoqué la question des financements de ces leviers, de ce levier-là pour modifier les comportements et que là, ce soit un projet un peu citoyen partagé par tous?
Merci beaucoup, voilà, David, merci pour votre question. Merci beaucoup.
On aurait aimé avoir des précisions sur le public, hein, de ces éducateurs.
Et éducateurs environnement, allez-y, puisque vous êtes encore là, David. Et en même temps, éloignez-vous de je ne sais quoi, David, parce que vous avez un buzz derrière vous qui est très, très désagréable aux oreilles.
Ah,
oui, alors, vraiment terrible. C'était quoi votre question, pardon, William?
C'est le public de ces éducateurs à l'environnement, est-ce que c'est à qui ça s'adresse?
À qui vous parlez, David?
En fait, les éducateurs à l'environnement, ils travaillent avec l'ensemble de la population. Ça peut être des enfants petits dans les colos, évidemment, c'est le plus classique, mais dans les écoles, etc. Mais aussi auprès des habitants quand ils interviennent auprès de collectivités publiques, auprès de professionnels, etc., mais qui ont besoin, ou dans des entreprises, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour comprendre un peu les gestes, mais aussi que ce soit pas anxiogène.
D'accord.
Que ce soit tourné vers des solutions et voilà.
Vous avez discuté, merci beaucoup David, vous avez discuté avec des éducateurs à l'environnement, William ou Muriel?
Pour ma part, non. Il y a eu beaucoup d'intervenants, énormément d'intervenants, et il fallait à un moment donné faire des choix en fonction de nos groupes de travaux.
Mais au fond, vous avez, vous, en face de vous, des gens qui sont d'une certaine façon des éducateurs à l'environnement pour vous-même,
tout
en fait.
C'est
un peu comme ça que je comprends les choses pour ce qui vous concerne.
Est-ce que je peux me permettre de répondre à la question précédente que vous aviez posée? Comment fait-on pour resserrer ces contributions?
Comment on resserre?
Il y a cet effet d'entonnoir qui s'est posé cette session-ci.
Bien sûr.
Et nous devons prioriser les mesures qui auront un impact direct, ou le plus rapidement possible, en tout cas pour respecter notre lettre de mission. Donc celles qui ont cet impact sur les gaz à effet de serre au mieux, et pourquoi pas au plus vite, tout en étant quand même réaliste, on essaye de les prioriser.
Alors, il y a des choses qui sont super faciles, effectivement, fermer les portes des magasins, non mais c'est vraiment pas une plaisanterie, c'est d'une facilité déconcertante, éteindre la lumière, y compris dans les très grandes surfaces, etc., il y a des choses qui sont...
Oui, puis on n'a pas besoin de légiférer pour
on
ça.
On est d'accord, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas besoin de passer devant des députés.
Mais
Célia,
par exemple, tous les deux, vous êtes dans le groupe Se Loger, donc sur le logement, vous allez bien resserrer sur... 3-4 propositions, lesquelles par exemple?
Bon, l'artificialisation des sols.
On lutte contre, on arrête.
On limite l'étalement urbain, on peut essayer de proposer ça. William est spécialiste pour ça d'ailleurs.
On est passé de 10 mesures à 3 ambitions. Une première ambition sur la rénovation globale des logements, donc le fait d'isoler. une deuxième ambition, comme Muriel l'a dit, sur limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Et une troisième ambition aussi de formation, en fait, dans les métiers du bâtiment, donc tous les métiers qui y touchent, hein, qu'on soit élu, architecte, constructeur, promoteur, sur des matériaux, comment dire, dont la production n'engendre pas de rejets de des rejets de carbone moindres, pour tendre vers des villes et une architecture pas carbone.
Olivier nous appelle de Lorient. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir. Oui.
Bienvenue oui. Olivier.
Oui.
Rassemblez-vous, Olivier. Voilà. Bon, je vois bien que vous êtes éparpillé. On vous écoute, allez-y.
Je vous remercie. Alors moi, j'avais une question. Je voulais savoir, parce que j'ai pas forcément trouvé l'information sur le site. Je vais faire vite. Est-ce qu'on s'en comptait en réduction d'émissions de gaz à effet de serre les consommations directes et indirectes? Parce que, par exemple, les consommations indirectes, c'est notamment celles qui nous viennent de l'étranger. Par exemple, quand on fait fabriquer quelque chose à l'étranger et qu'on le consomme en France, ça n'est pas toujours compté. Et pourtant, ça représente quand même bien au moins 50% de nos émissions réelles.
Ok. Et c'était votre question, Olivier, pardon?
Oui.
Ok. Donc, est-ce que, dans le cadre de vos discussions, c'est ce que je comprends de la question d'Olivier, William O'Connor, notamment, est-ce que dans le cadre de vos discussions, ce genre de choses a été pris en compte ou pas du tout?
Alors, ça souligne aussi un point important, qu'on peut pas se substituer aux experts. Donc, finalement, les données vis-à-vis de ces rejets carbone sont tous comptabilisés, nous sont passés, mais pour rentrer plus en détail, il faut donc trouver l'information. Mais du coup,
c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de propositions sur comment calculer notre propre empreinte, comment être sûr que nous la connaissons, est-ce que les employeurs doivent la fournir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions dans ce sens-là, dans ce que j'ai pu lire.
Ah, mais c'est extrêmement important. Je vous conseille à tous, d'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Micmac, vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous faites votre propre bilan carbone, vous avez conscience de ce que vous pouvez faire, travailler sur votre quotidien.
Une question sur franceinter.fr. Pourquoi si peu de vidéos en ligne sur les conventions, quasiment rien sur les interventions des experts et notamment auprès des groupes à thème? Voilà un monsieur ou une dame qui s'appelle Fabienne d'ailleurs et qui dit que il y a effectivement une partie des plénières qui sont disponibles, mais qu'elle est frustrée sur les intervenants que vous avez. C'est des choses que vous avez déjà entendues. Il est possible de les entendre, ces intervenants, ou pas?
Alors, partiellement. Parfois oui, parfois non, et parfois on a demandé que ce soit, si possible, sans être filmé, pour permettre à certains qui restent en retrait dans les groupes de prendre la parole, d'oser prendre la parole, parce que quand on a un micro au-dessus de notre tête et puis une caméra très proche, ça peut freiner, quoi. Certains qui sont très timides ou trop en retrait.
Il y a une volonté de totale transparence. Hein. Tous les travaux sont accessibles sur le site de la convention. Il y a beaucoup, énormément de passages qui sont quand même en direct. Oui. Pour l'intervention des experts, elles sont principalement repodcastées, c'est-à-dire juste l'audio, hein, sur le site. Elles sont trouvables sur le site. Donc, tout ne peut pas être retransmis, puisqu'il y a aussi des choses inhérentes à l'organisation. Hein. On ne va pas non plus se transformer en loft story. Hein. C'est pas l'idée. Vous n'allez pas pouvoir nous suivre tout le temps, même dans ma chambre d'hôtel.
Très générationnel comme comme blague.
Mais disons que voilà, il y a une volonté de totale transparence. En fait, tous les citoyens travaillent avec les citoyens et on a besoin aussi de vous entendre des propositions. C'est pour ça que toutes les plateformes sont ouvertes. Nous, on essaie beaucoup de communiquer avec Muriel et avec d'autres.
Et on en est ravis. D'ailleurs, vous reviendrez au fur et à mesure. J'aimerais savoir si la question des effets écologiques du CETA ont été abordés ou le seront par cette convention citoyenne, donc le traité entre le Canada et l'Union européenne. Emmanuel Macron a partiellement répondu à cette question, d'ailleurs, au cours du week-end.
Emmanuel Macron a précisé que ce traité avait été ratifié. Sauf que sur l'ensemble des 28 pays, il suffit qu'il y en ait un qui fasse, comment dire, un rejet, et puis ça laisse provisoirement pendant 3 ans tout ça en place, mais après, qu'est-ce qu'il en advient?
Et est-ce qu'elle n'est pas là, au fond, la limite, pardonnez-moi, de cette convention? Imaginez que vous, collectivement, vous disiez, il faut que la France sorte de ce traité. Évidemment que c'est pas comme ça que ça marche.
Non.
Donc
non.
La réponse, ce sera ben non. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là s'il y a 150 personnes qui veulent pousser dans cette direction-là?
Il y a les pour, il y a les contre. Il faut savoir que le CETA, ça a été 7% de plus en valeur euro entre 2017 et 2018 de produits exportés de l'Union européenne vers le Canada. Et à l'inverse, j'ai 3% du Canada vers l'Europe en valeur euro. Donc certains y trouvent leur compte, d'autres pas, mais ça pose d'autres questions bien plus profondes.
Mais du coup, le fait que cette question soit venue, qu'elle a été posée à Emmanuel Macron, ça veut dire que vous en avez débattu, en fait, les uns les autres.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a débat parmi les 150 que vous êtes, et qui penche dans quel sens, à votre avis ?
Plutôt pour stopper ce processus. Plutôt. Après, je ne peux pas m'engager au nom des 150. Je parle pour un groupe qui est vraiment attaché à ce sujet et qui aimerait faire en sorte que ça soit mis en stand-by, si j'ose dire.
Et la réponse, donc, j'ai l'impression que vous l'avez entendue ce week-end. William qui lève la main. Bravo. À l'école. Bravo.
On a l'habitude. Hein,
c'est vrai.
La parole,
citoyen William.
Ce que je voulais dire, donc le président a bien précisé aussi qu'il ne ferait pas business avec les pays qui ne respectent pas les accords de Paris. Après aussi, moi, ce que j'engage aussi, les citoyens, à mieux s'informer aussi de la provenance des éléments qu'ils amènent chez eux, donc ce qu'ils consomment, et aussi de faire attention que les éléments qui ont traversé un océan ont forcément un bilan carbone qui n'est pas favorable. Donc c'est aussi par l'acte de choix et de consommation, sans vouloir forcément attendre que l'État prenne des décisions pour vous, vous pouvez faire vos propres choix et puis aussi, écoutez.
Et si je peux préciser, dans ce CETA, il y a d'autres choses qui sont un petit peu hors climat, mais qui toutefois sont étroitement liées. Ce fameux principe de précaution sur certains...
Bien sûr, qui avait été largement débattu au moment de la signature, en effet, et qui fait partie
moi,
aussi des points d'achoppement.
Et après, la mission, c'est vraiment de réduire les émissions de la France.
Bien sûr.
Alors, la France qui joue un petit rôle dans la planète.
Et juste, c'est normal
et
que
juste
le,
par rapport à l'auditeur de tout à l'heure, c'est vrai que les produits importés, ça compte, mais c'est quand même pas du tout la majorité, ni même la moitié des émissions. Juste un petit rappel, c'est 30% les transports, 20% sans le bâtiment. Après, il y a l'agriculture et l'industrie, donc c'est pas non plus 50% de produits importés.
Et justement, ça fait partie des informations que vous devez avoir. Guillaume est là, bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, j'avais une question justement par rapport à vos formations et aux intervenants qui viennent vous donner des informations. Je voulais savoir qui c'était ces intervenants. Est-ce que c'est vous qui les choisissez ? Est-ce que c'est plutôt des ONG, des PDG de grosses entreprises de l'énergie, d'Areva ou autres ? Est-ce que sur les questions agricoles, vous avez plutôt la FNSEA ou la Confédération Paysanne ? Voilà.
Merci Guillaume pour cette remarque et ces questions. Muriel Pivard,
alors,
qui vous parle ? Qui sont ces personnes ?
Ces intervenants, ils ont été très nombreux. Beaucoup sont demandés par les citoyens et le comité de gouvernance s'attelle à respecter les demandes, sachant que ça n'est pas toujours possible pour des raisons de planning, etc.
Mais par exemple, qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous demandez en fait ? Qui aimeriez-vous entendre ?
Alors c'est variable selon les groupes de travail, bien sûr. On ne peut pas tous avoir les mêmes intervenants. Donc en fonction des besoins des groupes, des demandes sont faites. Et la plupart du temps honorés.
Mais des demandes, c'est-à-dire
je
quoi,
dis bien
par
la
exemple,
plupart du temps, pas à 100% non plus. Hein.
Mais en général, c'est quoi ? Ce sont des ONG, ce sont des experts d'organisation, etc. Ou est-ce que ça veut dire, comme le demandait notre ami auditeur Guillaume, que vous pouvez aussi avoir quelqu'un de chez Total qui raconte voilà comment ça se passe pour nous et l'industrie fossile, etc.
On a eu énormément d'intervenants de tous ordres. Et ça a été très riche. Est-ce que tu te souviens de certains noms, Grégoire ? William.
Oui, c'est William.
Je pense à mon binôme Grégoire,
que je
salue d'ailleurs.
C'est qu'à la première session, forcément, les intervenants qu'on nous a présentés sont une liste qui a été choisie un petit peu au départ. Bon, ça allait quand même de la fabuleuse paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte jusqu'à avoir le PDG d'Aéroports de Paris.
Oui.
Donc ça nous a permis aussi, il y a un large spectre qui est balayé. Pour les sessions suivantes, en fait, il y a quand même une liste de souhaits, c'est-à-dire qu'on nomme pas forcément une personne, il y a des souhaits de personnes directes, mais des thèmes qu'on souhaite avoir. Dans le groupe, nous, Sologer, on avait donc besoin de spécialistes en isolation, par exemple, d'architectes. D'élus, de personnes comme ça. Donc, c'est des souhaits qui sont émis et qui sont, moi, je dois l'avouer, assez respectés. Et pour l'instant,
Mais c'est pas toujours évident. Hein. Si parfois certains peuvent pas être reçus, il faut savoir que ces personnes sont occupées. Ils ont leur planning respectif
Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être plus influencé par un lobby que par un autre, par la FNSEA par exemple, pour l'agriculture ou par
Alors nous ne les avons pas reçus, donc personnellement, ça va être difficile de répondre à cette question. Ça n'est pas dans nos, ça ne rejoint pas notre groupe de travail, mais a priori, ça pose pas de problème. Hein. Maintenant, je ne peux pas répondre au nom des personnes qui éventuellement les auraient reçues.
Et là, je parlerai aussi moi en mon nom propre là-dessus. C'est que en fait, tous les petits défis ou combats personnels dans lesquels on croit dans nos vies courantes, on les porte tous. Et dans cette convention citoyenne, moi, j'ai rien qui est laissé de côté pour l'instant de ce que je souhaite que dans la forme finale arrive. Donc, pression, non. Enfin, on n'a jamais senti une pression de quoi que ce soit de la part de nos intervenants. Et puis, on prend et on laisse. Hein, le choix final, la rédaction nous est quand même laissé à la fin, quand même.
On n'a pas le temps de prendre Olivier, mais je vais prendre sa question dans ma voix. Pardonnez-moi, Olivier. Est-ce que les tirés au sort ont travaillé sur la question de la difficulté de faire appliquer des mesures écologiques aux industriels? C'est-à-dire qu'une fois que l'idée est sur le tapis, effectivement, est-ce que vous travaillez aussi sur sa faisabilité, notamment vis-à-vis des industriels ou pas? Comment ça se passe dans ces cas-là?
J'ai pas souvenir qu'on ait abordé ce sujet. On a parlé du marché carbone, des quotas carbone entre les gros groupes industriels. Et quant à l'application des mesures, ça n'entre pas, sauf erreur, dans notre groupe de travail, ni peut-être dans les autres. J'avoue que je me rappelle pas avoir travaillé là-dessus.
Et dans votre groupe à vous, William,
On est dans le même.
Autant pour moi.
La convention citoyenne, elle n'est pas uniquement pour transformer monsieur, madame, tout le monde en bon élève. Hein. Il y a quand même des habitudes qui doivent aussi changer du côté des entreprises, du patronat. Des bénéfices faciles de la spéculation, donc pas uniquement des citoyens.
Et c'était le sens de la question, justement. Oui. Est-ce que vous abordez ça aussi lorsque vous êtes dans vos groupes de travail?
Les personnes du groupe consommé.
On appuie sur l'industriel, justement.
Voilà, justement, oui.
Peut-être dans le groupe produire et travailler. Peut-être bien.
Également.
En tout cas, ça veut dire qu'on aura l'occasion de se revoir, de redire au fur et à mesure où vous en êtes, comment vous avez avancé. Et surtout à la fin, quand vous aurez, comme vous disiez tout à l'heure, Muriel, mis tout ça dans l'entonnoir. Merci beaucoup et portez-vous bien.